Je suis contente que Yann ait pu lire cette intéressante contribution de Deshpande, aussi parce que vous verrez qu'en réalité certains des thèmes se recoupent. Et donc, ça est, même si on ne s'est pas téléphoné avant. Donc, les organisateurs de ces journées dédiées à la philologie indienne, que j'ai aussi le grand plaisir de remercier, ont mis en évidence la nécessité de poursuivre un chemin de réflexion sur ce qui dérive de l'application d'un puissant modèle exotique, tel celui de la philologie gréco-latine, à un contexte culturel aux différences tellement marquées comme le contexte indien. Et je suis d'autant plus d'accord sur l'urgence de poursuivre la réflexion, sur l'urgence de continuer cette prise de conscience des différences et de leurs enjeux, qu'il ne s'agit pas ou pas seulement de vérifier l'applicabilité ou l'opportunité de tel ou tel instrument exotique, mais il s'agit, je pense, de repenser certains concepts fondamentaux de notre travail, tels ceux de texte, de auteur et de destinataire. Et dans ma toute petite contribution, c'est surtout sur le concept de texte que je voudrais me concentrer. Et tout spécialement sur les pratiques textuelles dans les traditions dites techniques, dans les shastras et dans la grammaire en particulier. Le domaine des shastras, est un domaine qui est caractérisé par une utilisation qu'on pourrait définir compulsive du type du commentaire, qui résulte souvent en des intégrations successives d'un texte dans l'autre. Il y a toujours des textes qui en englobent des autres. Mais les cas de figure peuvent être nombreux et il est nécessaire de bien comprendre chaque fois en quoi existe exactement l'action de commenter, quel rapport elle implique avec le texte source et quels sont les buts chaque fois visés par l'action de commenter, qui ne sont pas forcément, qui sont presque jamais les mêmes pour chaque commentateur. Alors, puisque je préfère toujours raisonner sur des exemples concrets, je présenterai ici un cas en quelque manière exemplaire, qui est celui d'un auteur et d'un texte, Katyayana, l'auteur des Vartika à l'Ashtadhyayi, qui se sont, pour ainsi dire, trouvés à la merci au fil des années, au fil des siècles, de ce mécanisme des commentaires, et qui encore aujourd'hui, à mon avis, peinent à trouver leur place dans une vision globale des premiers pas de la grammaire de Panini. Juste après l'auteur source. Quand nous parlons de Katyayana et de Sevartika, nous parlons, comme il est plutôt connu, d'un texte qui a été reconstruit en date assez récente, notamment par l'œuvre de Kilholm. La tradition indienne ne nous a pas conservé de manuscrits avec les seuls Vartika, sans le commentaire de Patanjali. Si ce n'est des œuvres que Kilholm définit plutôt tardives et philologiques, en quelque sorte, à leur tour. Et elle ne nous a même pas préservé des Vartika commentés par d'autres auteurs, autres que Patanjali. Donc nous avons une sorte de groupe qu'on n'arrive pas facilement à scinder entre Patanjali et Katyayana. Les règles appliquées par Kilholm pour identifier les Vartika à l'intérieur de ce flux continu des textes des manuscrits, parce que les manuscrits ont tendance aussi à ne pas signaler quels sont les Vartika. Donc ces règles utilisées par Kilholm sont généralement connues et acceptées. C'est-à-dire, Kilhorn a identifié comme Vartika tous ces brefs aphorismes sans verbe, généralement, avec un usus scribendi plutôt précis, des brefs aphorismes sans verbe finis, suivis d'une paraphrase mot à mot. Et bien entendu, il a identifié en tant que Vartika la plupart de ces aphorismes qui sont définis Vartika par les commentateurs plus tardifs, en partant d'une acceptation de la tradition ultérieure. Mais disons que l'opération de Kilhorn se fonde sur un certain nombre de présuppositions, notamment ce que nous entendons par Vartika, que ce que nous entendons par Vartika est ce qu'entendaient les commentateurs anciens, qu'il y a eu un texte autonome et unitaire, qu'il y a eu un Vartikapada, quelque part, qui à un certain moment il a été englobé dans le texte de Patanjali. Un Vartikapada avec une fonction culturelle spécifique. Et une autre présupposition est que ce texte ainsi formulé a toujours joué le même rôle à l'intérieur de l'histoire de la discipline. Toutes ces présuppositions ont bien entendu en partie été questionnées, pas l'œuvre de Kilhorn en tant que telle, qui est irremplaçable, non ? Mais on s'est de toute façon interrogé sur certains points des choix qu'il a faits. Et spécialement importante pour ceux qui m'occupent est une question soulevée par Johannes Bronckhorst, justement sur le terme Vartika, sur ce que signifie Vartika. Et Bronckhorst, disons, essaye de montrer du moins pour les commentateurs les plus anciens et in primis Bhartrihari, le terme Vartika ne semble pas identifier les seuls aphorismes, donc ces petites phrases sans verbe fini, hein, mais plutôt l'ensemble des aphorismes avec la paraphrase. Donc, on ne peut pas reprendre ici l'argumentation de Bronckhorst, mais je voudrais reprendre au moins un exemple. Bronckhorst part d'un texte qui est la Yuktidipika, donc un texte qui n'est pas un texte grammatical, qui avait déjà attiré l'attention de Wessler de par sa forme définie peu commune, car sa forme consisterait dans la juxtaposition une forme nominale concise avec une paraphrase verbale suivante. Donc la Yuktidipika a une forme textuelle, c'est Renaud qui nous a enseigné à faire attention à la forme des textes, a une forme textuelle qui peut rappeler assez de près ce que l'on voit dans Katyayan. Le but de Bronckhorst est de démontrer que, en fait, cette forme peu commune était connue par l'auteur sous le nom de Vartika, hein, donc petit aphorisme plus paraphrase, et que cette même désignation pouvait s'appliquer aussi à l'ensemble des aphorismes plus paraphrase qui caractérisent mais n'épuisent pas le Mahabhashya, donc le texte de Patanjali. En effet, il n'y a qu'une seule occurrence du terme Vartika dans la Yuktidipika, et il se réfère exactement à une portion du texte du Mahabhashya qui néanmoins n'est pas un Vartika, pas dans le sens utilisé par Kilhorn, et à vrai dire, il n'est même pas une paraphrase d'un Vartika. En réalité, il s'agit de, je vais essayer de, d'un exemple, que vous pouvez lire ici, Tata Anadvaham Udahirini Bhagini Vahasi Yatman Shirasi, etc. Iti Vartike Drishtantaha, c'est cet exemple. Et cet exemple, en réalité, se retrouve bien loin d'un Vartika de Katyayana. Plus spécifiquement, à un moment où Patanjali démontre que le Vartika n'est pas nécessaire. La question est « Tattarhi Vaktavyam » navaktavyam. Donc, faut-il le dire, le vartika? Non, ce n'est pas nécessaire. Et la raison pour laquelle n'est pas nécessaire est donnée exactement, entre autres, par cet exemple qui est qualifié de vartika dans la Lipika. Yukti-Lipika, par contre. Donc, l'auteur de la Yukti-Lipika montre une bonne familiarité avec toute l'œuvre de Bhartrihari, tout spécialement le Mahabhasha-Lipika. Donc, il y aura deux Lipikas, il va falloir que chaque fois je rende un peu clair à laquelle des deux je fais référence. Et si nous prenons l'usage que Bhartrihari fait du mot, nous voyons que son usage ressemble à celui que nous venons de voir. C'est-à-dire, Bhartrihari peut utiliser le terme vartika pour indiquer quelque chose qui va au-delà de l'aphorisme pur et simple. L'autre exemple, donc celui-là qui vient directement de Bhartrihari, nous avons un vartika selon Kilhorn, Siddhamtu Patat, dans lequel le vartika lui-même fait référence à une liste. Un problème se résout grâce à la lecture d'une liste, d'un parta. Le vartika ne donne pas cette liste. C'est une partie de texte qui probablement était dit chaque fois, expliqué par le maître. Patanjali va effectivement donner la liste. Il va dire c'est la liste des éléments qui commence avec tassil jusqu'à pash, qui commence avec chasse jusqu'à la terminaison des composés, etc. Donc Patanjali nous donne la liste auquel le vartika ne fait que faire une référence. Et le Mahabhasha Lipika de Bhartrihari affirme que un certain élément manque dans le vartika. Tal iti ayam vartike na upasam garhita. Il n'est pas compris dans le vartika. Or, le vartika n'a pas de liste, du moins dans la version de Patanjali. Je considère que Brancost a certaines pièces à conviction apportées dans son article qui nous montrent que, du moins pour Bhartrihari, je ne vais pas plus loin, hein, du moins pour Bhartrihari, le terme vartika voulait dire quelque chose de plus que le simple aphorisme, mais plutôt il comprenait l'aphorisme suivi de la paraphrase, et peut-être des exemples et contre-exemples. Or, si cette position est correcte, elle nous oblige à revoir ce que nous pensons communément comme étant le texte de Katyayana, parce que ce serait un texte quand même plus complexe. Mais surtout, il nous obligerait à repenser le rapport de Patanjali avec son auteur, parce que Patanjali perdrait toute la partie purement de paraphrase que lui est généralement attribuée. Et donc, il nous obligerait aussi à repenser les buts de l'action de commenter de Patanjali. L'opération de Kilhorn, disons, elle a en quelque sorte extrait un texte d'un continuum qui ne le distinguait plus, c'est-à-dire les manuscrits ne le distinguent plus, hein. Du point de vue justement de la transmission matérielle. Et donc, elle nous a offert un objet culturel, et cet objet culturel qu'elle a en quelque sorte extrait, dans quel domaine a-t-il un sens? Parce qu'au point d'arrivée, tel que nous le recevons, cet objet culturel était comme disparu. Je crois donc qu'il est important de se retourner vers la doxographie sanscrite, en particulier se concentrer sur les éléments de méta-réflexion que les traditions grammaticales nous offrent, de façon telle à comprendre le rôle, ou bien plus proprement les rôles, que cet auteur, qui est si évasif, si fuyant, a joué à l'intérieur du développement de la tradition qui se réclame de Panini. C'est une approche qu'on pourrait définir émique, dans le sens du linguiste Pike, en tant qu'elle utilise, pour autant que possible, des paramètres de description saillants pour le système même qui est décrit, et non pas des paramètres venant de l'extérieur, et qui a l'avantage de nous permettre de comprendre peut-être un peu mieux les rôles joués par les différents textes et les glissements qu'ils ont pu subir. Et donc, une bonne manière de commencer est probablement celle de voir un peu ce que le Barabash à lui-même nous dit de son action de commenter et des textes auxquels il fait référence. Et on peut voir que dans le Mahabharata, on identifie clairement deux textes, le Vritti Sutra ou Sutra Pata, qui est l'Ashtadhyayi, hein, et le Vartika ou le Vakya. Ce sont les deux termes. Et ces deux textes sont présentés comme agissant de manière synergique pour former un et seul texte, censé décrire de manière complète tous les faits de la langue. Dans son commentaire, Patanjali se laisse inspirer par les deux, et si différence il y a, elle serait plutôt d'ordre épistémologique, en tant que seulement l'Ashtadhyayi est source d'une connaissance correcte sans contexte, tandis que, comme nous avons vu, Katyayana peut être explicitement contestée. Je crois que nous pouvons prendre un exemple de cette manière de faire, la règle de Panini 2.1.1 Samartha Padavidi, qui enseigne pratiquement que, je vous donne la traduction des commentaires, que une règle concernant les pads, les mots, doit concerner des éléments qui sont en connexion syntactique et sémantique. À ce moment-là, Katyayana conteste la position de Panini et demande d'offrir une provision pour le cas où on a des composés sanscrits bien formés et qui pourtant ne sont pas samartha, ne sont pas liés d'un point de vue sémantique. Par exemple, Nish Kaushambihi, sorti de Kaushambihi. Entre Nish et Kaushambi, il n'y a pas de lien sémantique direct. On doit imaginer un lupta akyata, un verbe qui a été substitué par zéro. Celle-ci est la proposition de Katyayana. La réponse de Patanjali est qu'en réalité, tout ceci n'est pas nécessaire, donc cette intégration au texte n'est pas nécessaire. Kim, pourquoi elle n'est pas nécessaire? Vachana pramanyat iti eva, en raison de l'autorité d'une règle, d'un vachana, d'un statement. Hein. Kim vachana pramanyam, on nous dit quelle est cette règle, kugati pradaya de 2.18. Mais Patanjali va donner voix à un opposant qui dit « Asti anyat et asya vachane prayojanam ». Mais cette règle a aussi un autre but, donc nous ne pouvons pas penser que son but principal soit celui de rendre compte des formes comme Nishkaushambihi. Kim, quel but? Rendre compte des formes comme Suraja et Atiraja. Alors, Patanjali va faire un pas en arrière et il dit Na brumo vritti sutra vachana pramanyad itihi kim tarhi vartika vachana pramanyad. Donc, ah, mais je ne dis pas que c'est en force de cette règle, puisqu'on a contesté la possibilité de faire rapport à cette règle, c'est en force d'un vartika. Vartika qui après est ce vartika 3 et 4, à 2.2.18. Ceci montre non, que Patanjali a une sorte de macro-texte auquel il fait référence, que c'est l'Ashtadhyayi et l'Akashika, même si avec un différent niveau d'autorité attribué aux deux textes. Et je crois que cette circulation possible à l'intérieur des textes est un trait spécifique des Shastras, qui construisent ces macro-textes qui sont néanmoins régis par ce principe de cohérence et d'unité lexicale, ou de uso scribendi, comme on dit généralement, que généralement nous avons la tendance d'attribuer au texte et non pas au macro-texte. Ceci est assez évident dans un autre passage que je n'ai pas mis dans les slides, mais je vais lire. Patanjali, à un certain moment, discute du sens du mot « siddha » tel qu'il est employé dans le premier aphorisme de Katyayana. Et « siddha » est un terme qu'on peut utiliser tout aussi bien pour des choses immuables, fixes, le soleil, la terre, les terres sont des « siddha », que pour des choses produites. Le riz est « siddha », c'est à Patanjali que je donne la voix en ce moment. Le riz est « siddha » dans le sens qu'il est terminé, il est prêt. Lequel des deux sens est en cause dans l'aphorisme de Katyayana qui intéresse Patanjali à ce moment-là? Et Patanjali répond qu'il s'agit du premier sens, donc le mot est siddha, tout comme le soleil, la terre et les terres. Pour quelle raison? Parce que dans un autre texte de la tradition grammaticale, le Sangraha de Vyadi, qui ne nous a pas été préservé. Le mot siddha est opposé à quelque chose qui est karya, produit. Alors Patanjali dit, puisque dans le Sangraha, le mot siddha est opposé à karya, nous pensons qu'il faut l'interpréter comme un synonyme de nitya, fixe, immuable, éternel. Et il en est de même ici, hi, iha. Bon, iha, c'est probablement Katyayana, les Vartika de Katyayana. Et Bhartrihari va encore plus loin et il remarque cette affirmation un peu forte. Ce mot a un sens dans le Sangraha. Et puisque le Sangraha appartient au même Shastra, je peux l'appliquer aussi dans Katyayana. Et il se demande, et pourquoi donc, non? Et la réponse est justement, le Sangraha aussi est une portion de ce même Shastra. Par conséquent, en raison du fait qu'il s'agit d'un seul et même texte, et grâce à l'autorité de Vyadi, ici aussi, on comprend le mot Siddha de la même façon. Je vais éviter une partie qui peut-être n'est pas fondamentale. Donc, dans quelque sorte, on peut représenter le macro-texte auquel Patanjali fait référence de cette manière. Non, il y a l'Ashtadhyayi de Panini, le Sangraha qui ne nous est pas resté, et Katyayana. Et bien entendu, il y a des différents niveaux d'autorité pour ce test, notamment Katyayana le plus bas. Mais il s'agit de textes auxquels Katyayana considère qu'il peut puiser pour construire son commentaire. Voyons un peu Bhartrihari. Bhartrihari est le premier témoignage que nous avons, donc il y a un saut de beaucoup de siècles. Le premier témoignage que nous avons après Patanjali. Et dans son deuxième livre se termine par une série de karikas qui ont été étudiées maintes fois, qui sont extrêmement intéressantes et qui retracent un peu l'histoire de l'école. Aklučka affirme qu'il ne s'agit pas ici en réalité que ces karikas ont été ajoutés par un élève de Bhartrihari, ce qui est par ailleurs possible, mais ça ne change pas spécialement le genre de discussion qui nous intéresse en ce moment. Cette reconstruction de l'histoire est en réalité un texte extrêmement complexe. 5 minutes ? D'accord. Alors, Un texte extrêmement complexe. Mais voyons seulement les éléments fondamentaux. La première karika nous dit qu'à un certain moment, le Sangraha était tombé en ruine parce qu'il était tombé dans les mains de grammairiens qui étaient alpavidya parigrahan, donc de pauvres sciences, hein, et qu'ils étaient aussi samkshepa ruchin, qui se complaisaient d'abréviations. Et ce sangra était évidemment difficile à gérer. Et alors, par le maître Patanjali, qui voit tous les passages, Tirthadarshina, les manières de passer un fleuve. L'image des bateaux est souvent présente dans les commentaires. Non, le maître est celui qui aide à passer un fleuve. Et alors, le maître Patanjali qui voit tous les par le maître Patanjali qui voit tous les passages, fut composé ce texte du Mahabharata qui est un Nyaya Bijanam Nibandana. Donc, est une sorte de collection des sémences des Nyaya, des opinions correctes. Mais, nous dit la continuation, puisqu'il était, qui était trop difficile, le Mahabharata ne permettait pas de se former une opinion certaine. Du moins, il ne le permettait pas aux Akruta Buddhin, donc à ceux qui ont une Buddhi, une pensée qui n'est pas complètement bien formée. Et le texte continue en présentant le destin du texte de Patanjali qui, déprivé après d'une tradition vivante, serait donc d'un agama, serait survécu au sud, seulement en tant que texte, granta matra, pas forcément texte écrit, mais texte non vivant, texte pour lequel on n'a plus le agama, nous n'avons plus la tradition. Et qui après aurait été repris par le maître de Bhartrihari lui-même, qui aurait remis en circulation le Mahabharata. Mais ce qui m'intéresse spécialement ici est que le terme Patanjali fait référence au bloc Mahabharata et Vartika ensemble, sans besoin d'aucune distinction. Et à la limite, s'il y a un texte par rapport auquel on pose une relation herméneutique, c'est bien le Sangraha. Le Sangraha était là, mais le Sangraha risquait d'être perdu. Et donc, nous avons le Mahabharata de Patanjali. Mais aucune relation ne nous est signalée dans cet ensemble qui est Katyayana plus Patanjali. Je saute un tout petit bout et je termine. La Kashika pose aussi Vritti Bhasha. Non? Vritti Bhasha n'est pas toute seule encore. Elle dit Vritti Bhasha et Datunama Parayana Adishu. Donc pour la Kashika aussi, il y a plus d'un texte de référence à partir duquel on a fait ce Sara Samgraha. La Kashika se autodéfinit un Sara Samgraha, donc une collection d'essence. Nous sommes donc bien loin de ce que, ceci est tout simplement une sorte de présentation hein, des textes, nous sommes donc bien loin de ce que probablement nous considérons normal. Panini, commenté par Katyayana, commenté par Patanjali. C'est ce que nous reprenons le plus. C'est la manière de présenter, disons, les rapports entre ces auteurs, hein, la plus commune, qui n'est pas sans raison d'être, parce que nous la retrouvons, effectivement, mais plus tard, Nous la retrouvons par exemple dans le Nyasa, hein, qui dit explicitement le Bhashya, Patanjali Pranitam, fait par Patanjali, que est-il ce Bhashya, est un Vivarana, une explication, des Vakya, Katyayana Pranitanam Vakyanam, est une explication des Vakya qui ont été faits par Katyayana. Mais nous devons arriver au Nyasa. Et plus loin, Deshpande déjà vous a donné la continuation, la formation des trois munis et ce type de développement culturel. Et donc à la fin de ce parcours, nous pouvons nous interroger sur l'opération menée par Kilhorn, comprendre les enjeux et les limites. Et limite, c'est un terme qui n'a pas dans ma perception une acception négative, pas forcément, hein. Et un élément qui me semble ressortir avec netteté est la capacité du Shastra de créer des macro-textes. Et ces macro-textes pouvaient être variables le long, au fil de cette histoire, bien entendu, millénaire. La dimension même du Shastra semble impliquer un affaiblissement du concept de texte, parce que le Shastra est un système qui doit se tenir entre les textes. Donc, le texte que Kilhorn a découvert dans les plis du Mahabharata n'a pas toujours existé en tant que tel. Il y a eu une période de l'histoire où il a joué son rôle sous une forme différente. Mais ceci ne l'enlève rien à l'importance de la découverte de Kilhorn, simplement il en précise les marges. Et je crois que je vais terminer ici.